France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, il y avait tellement de dieux, de déesses, qui rôdaient partout, dans tout le pays, dans toutes les îles, même les plus lointaines, qu'il fallait que des humains bien intentionnés se chargent d'y voir clair et y mettent de l'ordre. Les dieux formaient un maquis compliqué, foisonnant d'histoires, de rites, de représentations les plus diverses. Chaque ville, chaque île racontait autrement l'histoire des dieux. Il fallait aider les Grecs à s'y retrouver. Et il fallait surtout que ces êtres bizarres, lointains et inaccessibles, les dieux et les déesses, deviennent familiers, qu'ils parlent la même langue que tout le monde, pour qu'ils soient compris de tous les Grecs, quelle que soit leur origine.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Cette mission difficile était celle des poètes. Ils avaient un prestige énorme, car la mission était capitale. Les poètes aidaient les gens pas seulement à se divertir, à remplir leur corps et leur esprit d'histoires belles, musicales et entraînantes, ils les aidaient aussi à vivre. Sans les poètes, on ne pouvait pas savoir ce qu'étaient tous ces dieux, ce qu'ils voulaient. On ne savait pas à qui on avait affaire.
Comment t'appelles-tu ? Cherche à te souvenir. Est-ce que tu te rappelles le nom de ta patrie ?
Je ne me souviens de rien.
Vite, Cléo, Ariane, appelez Calops. Il faut l'emmener tout de suite chez mon père. Attention, Nausicaa. Mais peut-être est-ce un dieu ? Ne dit-on pas que les dieux souvent prennent une forme humaine ? J'espère que non. Je voudrais qu'il ne soit qu'un homme.
On savait que le cours du monde, la vie des personnes, des cités, était dirigé par le bon vouloir ou le mauvais vouloir des dieux. C'est eux qui faisaient qu'une moisson était bonne ou non, qu'un bateau arrivait à bon port ou faisait naufrage. Si on avait de braves enfants, si une mère mourait en couche, cela venait des dieux. Si on gagnait ou si on perdait une guerre ou une compétition sportive, c'était à cause des dieux ou à cause de la manière dont on les avait respectés ou non. Auparavant, quand on n'avait pas fait le bon sacrifice à la bonne divinité, on n'avait aucune chance de gagner. Les dieux faisaient de la vie des gens ce qu'elle était. Il fallait donc que des personnes savantes, compétentes, en contact avec les divinités, expliquent qui ils sont, comment ils agissent. Ces personnes étaient les poètes. On les écoutait lors des banquets, lors des récitations dans les maisons des plus riches, ou lors de grands festivals, où les Grecs venaient en masse pour plusieurs jours. En Grèce ancienne, il n'y avait pas, comme en Égypte ou en Inde, une caste de prêtres liés à des temples, caste religieuse qui était censée détenir le monopole sur la manière dont il fallait concevoir les dieux, comment il fallait raconter leurs histoires. Ces prêtres avaient tout pouvoir pour régler les rites, les sacrifices, les prières, mais aussi les récits qu'on pouvait faire sur les divinités. Dans ces civilisations, le savoir sur les dieux dépendait directement des personnes qui étaient en charge du culte des dieux. Rien de tel en Grèce. Il n'y avait aucune orthodoxie, aucun dogme, aucune église, aucun livre sacré disant aux gens comment ils devaient concevoir le divin. Les Grecs ne connaissaient pas de récits officiels, canoniques, déroulant avec une autorité sacrée l'histoire du monde, des dieux, des peuples. Il y avait bien des prêtres, des prêtresses, en charge d'un lieu de culte, d'un rituel. Mais ce qu'on disait des dieux, ce qu'on racontait sur eux, cela était confié aux poètes. Et ces poètes avaient la pleine liberté de ne pas être d'accord entre eux. Cette liberté était même encouragée. On aimait bien la rivalité entre poètes. On aimait qu'ils luttent entre eux de manière acharnée dans des concours de poésie organisés à grands frais par les cités. Ça les obligeait à être originaux, inventifs et donc intéressants. Les Grecs n'aimaient pas du tout la routine. Pourquoi des poètes ? Pourquoi des artistes pour faire apparaître le divin ? Ces dieux, on ne les voyait pas. On s'adressait à eux par des prières, par des sacrifices, mais on ne savait pas à quoi ils ressemblaient, ce qu'ils avaient fait précisément, quels étaient leurs penchants, leurs habitudes, leurs histoires. On n'était donc jamais sûr qu'une représentation du divin serait la bonne, serait vraie. On se disait autant avoir confiance dans les artistes les plus doués, les plus inspirés. Ils sauront nous faire apercevoir au moins quelque chose de ces dieux, un aspect, une figure, une anecdote. On pourra se rassurer avec ça, et les dieux pourront aussi devenir un objet de plaisir pour les humains. Il fallait qu'il y ait des peintres qui sachent transformer ces dieux invisibles en images, en scènes précises et variées, peintes sur des vases, sur les milliers d'objets de la vie quotidienne, sur des fresques. Il fallait des sculptures monumentales et colorées, bien visibles. Et il fallait des poètes qui racontent ces dieux, qui fassent entendre ce que veulent vraiment dire des noms comme Zeus, Artémis, Héra, Dionysos. Ces poètes ne se contentaient pas de reprendre les légendes locales, propres à telle ville, à telle île, sur ces dieux et déesses. Ils s'adressaient à un public plus large, essayaient de faire comprendre le mieux possible tout ce qu'on peut attendre de ces divinités. Pour ça, les poètes racontaient des histoires extraordinaires, des histoires de dieux ou les aventures de héros et d'héroïnes des temps passés. On savait qu'on ne vivrait jamais des histoires pareilles, qu'on ne serait jamais des titans, des Prométhées, des Héraclès, des Hélènes ou des Achilles. Mais avec ces histoires fabuleuses, on savait à quoi s'en tenir. On entendait ce que les dieux pouvaient faire de plus grandiose, de plus extrême. Ces poètes étaient nombreux. Le plus célèbre, le plus admiré, choyé, était Homère. Il n'était pas le seul à raconter des histoires divines des temps anciens, mais c'était celui qui passait pour être le meilleur. Il était le poète des poètes. Souvent, les Grecs, en parlant de lui, ne disaient pas « Homère », mais « le poète », et ça suffisait. Homère était pour eux la référence, l'autorité suprême. C'était la source de leur langue, de leur religion, de toute leur culture, de leur sagesse, de leur connaissance du monde, de la morale, de la psychologie, de la politique, de la guerre. Il y avait tout dans Homère, à part l'agriculture. Ça, c'était laissé à un autre poète, Hésiode. Quand on a commencé à mettre les enfants à l'école et à leur apprendre à lire, on leur faisait déchiffrer Homère, lettre par lettre, ligne par ligne. Homère, disait-on, était
le deuxième soleil qui fait vivre les Grecs.
Mais qui était ce poète, Homère? Quelle était son histoire? Homère était-il une invention, une sorte de mythe? Ou a-t-il existé? A-t-il été réel? C'est qui, Homère? On touche une question passionnante, la question de l'existence réelle d'Homère à traverser tous les siècles.
Jean-Pierre Vernon, helléniste.
Est-ce qu'il y a eu un Homère? Est-ce qu'il a écrit en même temps l'Iliade et l'Odyssée? Ou est-ce que ces deux textes sont différents? Je ne suis pas sûr que la question même ait un sens, parce que ces grandes épopées, comme l'Iliade et l'Odyssée, ce sont des chants de tradition orale, qui ont par conséquent été transmis sur des siècles.
Plus personne, ou presque aujourd'hui, ne croit à l'existence d'un Homère qui aurait été l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée. On ne sait même pas s'il a existé. On flotte. L'incertitude règne. Un ami m'a raconté qu'un professeur de lycée disait en classe avec autorité
qu'Homère ait existé, ce n'est pas certain, mais ce qui est certain, c'est qu'il était aveugle.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe.
Cherubim tus pies.
Barbara Cassin, helléniste et philosophe.
Homère, on ne sait pas ce que c'est. Ce n'est pas une personne. C'est le nom générique de tous ceux qui ont écrit les poèmes homériques. Donc on sait que ça n'est pas une personne, c'est une tradition qui a le nom d'Homère. Et Homère, du coup, on lui donne une forme.
Pierre Judet de la Combe nous parle du mythe d'Homère.
Pour les Grecs anciens, il ne faisait pas de doute qu'Homère a bien existé, qu'il a été une personne réelle de chair et d'os, avec une date et un lieu de naissance, des parents, une éducation, des voyages, des succès, des échecs, et une mort remarquable, dont on se souvient encore. Homère avait sa tombe, bien localisée. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que les Grecs n'étaient pas du tout d'accord entre eux sur la vie de cet Homère. Ils s'étripaient sur la date, sur le lieu de sa naissance, sur ses parents, ses voyages, sur le nombre de poèmes qu'il avait écrits. Les anciens racontaient sur lui plein d'histoires contradictoires. Personne n'était d'accord. On discutait ferme. Tous les Grecs pensaient que c'était un vrai quelqu'un, une vraie personne comme eux, comme vous et moi, tout simplement parce qu'il y avait ces poèmes qui étaient très connus. Ces poèmes, il fallait bien que quelqu'un les ait composés. Et Homère était tellement connu que ce ne pouvait pas être un rien du tout, un non-existant. Toute cette gloire renvoyait forcément à un être réel. Comme les Grecs pensaient que les héros très glorieux, Achille, Ulysse, Héraclès, avaient été des personnes qui ont existé. Et la preuve qu'il avait existé, c'est qu'Homère avait une tombe. Là, tout le monde était d'accord. C'était sur une île, Ios, dans les Cyclades, tout près de la plage où il était mort. Il y avait aussi tous les cultes qu'on lui rendait. Si on le célébrait autant, c'est que Homère n'était pas du vide, un fantôme. Homère, si on peut dire, était un mythe réel. C'était un repère, une référence absolue et nécessaire sur laquelle on pouvait broder, inventer. Tout le monde n'avait pas eu le privilège d'entendre Homère en personne chanter ses poèmes, si Homère a vraiment existé. Les poèmes d'Homère, ou attribués à Homère, étaient chantés par beaucoup d'autres chanteurs, tellement il était célèbre. Quand un chanteur d'épopée arrivait dans un festival, on pouvait lui demander « Chante-nous de l'Homère », puisque c'était le plus grand, le plus célèbre des poètes. Et le chanteur se mettait à chanter, à sa manière, un morceau d'un poème d'Homère, un épisode célèbre. Pour que ça marche, il fallait évidemment que le chanteur soit bon. Il fallait aussi que son public et lui partagent la même certitude, la même conviction. Ce que l'artiste chante, ce n'est pas n'importe quoi, mais ce qu'avait autrefois inventé un poète fabuleux, celui que tout le monde aurait aimé entendre en vrai, mais qui n'était pas là, parce qu'il était loin, ou parce qu'il était mort. Le problème pour Homère, c'est qu'il était tellement célèbre qu'on l'a fait naître n'importe où. Beaucoup de villes voulaient être son lieu de naissance. On a dit qu'il était de Smyrne, en Asie mineure, l'actuel Izmir, en Turquie, ou de l'île de Chios, de Colophon, de Cimée, de Salamine de Crète, ou d'autres villes de Crète, ou encore d'Athènes, d'Ithaque, de Pylos, d'Argos, sans oublier Rome. Des poètes grecs plus tardifs ont fini par trouver que ça commençait à bien faire. Et ils se sont moqués de cette multiplication des lieux de naissance d'Homère. Pour simplifier, ils disaient qu'Homère venait du ciel. Les muses l'ont envoyé sur terre, et l'une d'elles a sans doute été sa mère.
Car Homère n'est pas l'œuvre de la terre. Depuis le ciel azuré, les muses l'ont envoyé pour qu'aux hommes éphémères, il apporte des cadeaux qu'ils désirent. Ta patrie, Homère, c'est définitivement le vaste ciel. Celle qui t'a mise au monde n'est pas une mortelle. Ta mère est la muse Calliope.
Et mieux que ça, en naissant, ici ou là, peu importe, Homère a donné une patrie aux muses, qui sinon n'en aurait pas.
De quelle patrie Homère était-il citoyen ? Sur quel registre inscrirons-nous cet homme ? Toutes les villes veulent mettre la main dessus. La réponse est inconnue. Mais lui, héros égal aux immortels, il a laissé aux muses une patrie et une famille.
Homère est né plusieurs fois, de parents différents. Une tradition que reprend le très sérieux philosophe Aristote dit que le dieu Apollon était son père. Sa mère, elle, était anonyme. Enfin, c'est ce qu'on dit. Elle habitait une île des Cyclades, Ios. Un jour, le dieu Apollon vient y danser avec les muses. Et, sans doute de manière violente, il s'unit à elle. Cette femme a tellement honte qu'elle s'enfuit. Des pirates la capturent et la vendent au roi qui régnait sur la ville de Smyrne, en Asie mineure. Il la trouve belle et il l'épouse. L'enfant d'Apollon et de cette femme née, c'est Homère. Le roi de Smyrne l'adopte. La mère d'Homère est donc passée par toutes les conditions humaines possibles. Choisie et abusée par un dieu, esclave, puis femme d'un roi étranger, non grec, loin de chez elle, Homère n'a pas d'origine fixe. Une autre naissance d'Homère est particulièrement savoureuse. Elle donne un grand rôle à un fleuve qui coule près de la ville de Smyrne. Dans cette légende, la mère, cette fois, n'est pas anonyme. Il y avait dans la ville de Cumae, une ville nouvelle, fondée, dit-on, au 8e siècle avant Jésus-Christ, sur la côte d'Asie mineure, un pauvre homme qui s'appelait Mélanopos. Ce nom, visage noir, évoque déjà la poésie, qui est souvent liée à l'obscurité, aux ombres. Les poèmes ne sont faits que de mots et de musique, ils ne se voient pas. Cet homme, Mélanopos, a une fille, Créteïs. Elle allait être la mère d'Homère. Cimée ou Cumae va bien pour la ville où va naître une mère féconde. En grec, le nom évoque la grossesse, le gonflement des vagues. Quant au nom de la mère, Créteïs, c'est tout un programme. Il signifie la moqueuse, la médisante. On pourrait trouver étrange qu'Homère, dont la poésie est faite de gloire, de bravoure, de grandeur, avec les exploits d'Achille et d'Ulysse, puisse avoir une mère qui porte un nom aussi grinçant, un nom qui évoque un rire mauvais. Mais Homère était pour les anciens un poète complet. Il était à l'origine de toutes les formes de poésie et savait aussi composer des poèmes burlesques sur des sujets ridicules, bouffons et même obscènes. On en a quelques fragments très drôles. Ainsi, dans un poème qui lui a été longtemps attribué, Homère raconte les aventures d'un crétin qui, une nuit, veut uriner, repère un vase, mais se coince dedans. Ce même crétin ignore comment on fait des enfants. Sa femme lui dit qu'il doit la soigner en appliquant son dard à la blessure qu'un scorpion lui a infligée. Il y arrive, et le poème se clôt sur la célébration de cette belle nuit de noces. L'Antiquité jugeait ces histoires dignes d'Homère. Cette Créteïs connut pas mal de mésaventures. Ses parents meurent. La pauvrette est recueillie par un noble dont le nom sonne comme une trompette, seigneur de gloire, Cléanax. Mais d'après une légende, elle couche avec un inconnu. Parfois, il s'agit d'une violence. Créteïs est alors chassé de la maison de ce noble, qui l'envoie dans la grande ville voisine, Smyrne. Créteïs accouche d'un garçon sur la rive de l'un des fleuves de cette ville, le fleuve Mélès. Cette naissance est déjà un événement poétique. Le nom du fleuve Mélès rappelle le mot Mélos, qui veut dire le chant, comme dans notre mélodie. Et ce fleuve a été en rapport avec Orphée. Selon une tradition, Orphée avait été tué, démembré, décapité par des femmes furieuses, parce que, ayant perdu son Eurydice, il les négligeait. Mais sa tête a continué à chanter, portée par un fleuve, puis par les courants de la mer, qui l'ont déposée toujours chantante à l'embouchure de ce fleuve Mélès. Un lien est ainsi établi entre Orphée et Homère. Mais il y a une autre histoire de la naissance d'Homère, nettement plus jolie. Le fleuve Mélès y devient son père. Créteïs, dans cette histoire, est une nymphe, amoureuse du fleuve. Son nom change alors légèrement, on l'appelle Critéïs. L'histoire nous est racontée par un auteur tardif, du 3e siècle après Jésus-Christ, un dénommé Philostrate, qui nous décrit un tableau représentant les amours de cette Critéïs et du fleuve Mélès. La passion des deux amants est fleurie, comme le montre une savoureuse traduction de ce texte par un écrivain de la Renaissance.
Critéïs s'est enamouraché de Mélès, en tout semblable à un beau jeune adolescent, lequel peut bien être aperçu, sortant d'où il a ses fontaines. Or elle boit, la pauvrette, sans avoir grand soif, et puise de l'eau, et discute avec le bruit qu'elle fait, tout ainsi que si c'était quelqu'un qui parlait, versant là-dedans force amoureuses larmes, du mélange desquelles le fleuve se réjouit, car il l'aime réciproquement. La grâce de la peinture et ce Mélès étendu parmi le safran, le lotus et l'hyacinthe, tout est beau dit, joyeux et gai, pour se voir ainsi en fleur d'âge, montrant d'une façon délicate et juvénile, non lourde et ignorante toutefois. Car vous diriez que ses yeux méditent je ne sais quoi de poétique. Ceci n'est point songe, Critéis, et tu n'écris pas cet amour dans l'eau. Car le fleuve est ravi de toi, je le sais bien, et il s'apprête à inventer quelque manière de couche pour deux, relevant ces ondes sous lesquelles doit être ce gîte. Que si vous ne m'en voulez croire, entre autres vous, messieurs, je vous raconterai aussi l'artifice du lit. Un petit léger vent s'entonnant dedans l'eau la courbe en voûte et l'arrondit, de sorte qu'elle est, par même moyen, fort plaisante. Car la splendeur du soleil, qui bat à l'encontre, donne lustre et couleur à l'eau, ainsi élevée en suspens.
L'union a lieu. Naît un petit, qui ne s'appelle pas encore Homère, mais en souvenir du fleuve Mélès-Higuénès, c'est-à-dire né du Mélès. Il paraît que depuis, les poissons de ce fleuve dansent au son de la flûte. La mère et le fils sont accueillis dans la ville de Smyrne par un certain Phémios, qui était professeur de lettres. Lettres au sens strict, il apprenait à ses jeunes élèves à déchiffrer les lettres, à lire des textes, à faire de la grammaire. Ce nom, Phémios, est un clin d'œil de la légende à l'Odyssée. Dans l'Odyssée, Phémios est le nom d'un chanteur d'épopée qui chante d'abord pour les prétendants à Ithaque pendant l'absence d'Ulysse. Mais Ulysse va l'épargner à son retour pour qu'il chante sa gloire. C'est donc grâce à cet ancien Phémios d'Ithaque que la mémoire d'Ulysse a survécu et qu'Homère a pu composer plus tard son Odyssée.
Hélène Monsacré, helléniste.
Alors, des vies d'Homère, il y en a de nombreuses, mais il y a surtout autant de versions qu'on veut, parce qu'au fond, Homère, c'est une sorte de... C'est la définition même de la poésie. Piero Pucci a dit une chose très belle, il dit qu'à travers la bouche d'Homère, donc c'est ce poète pluriel, c'est la grâce du divin qui passe.
J'ai du savon qui lave les péchés capitaux, un stylo bille qui grave le goût d'un apéro, un soutien-gorge à pile qui ne s'allume qu'aux beaux yeux, un dentifrice habile à blanchir les aveux, un buvard facétieux qui sèche les chagrins, un œil pour lire à deux quand le jour s'est éteint, un violon capital voilé de chambertin à faire sonner le mal plus fort que le tocsin. Si ça ne va pas, tu peux toujours aller la voir. Tu demanderas la poésie, on t'ouvrira, même si elle n'est pas là, d'ailleurs elle n'est pas là, mais dans la tête d'un fou ou bien chez des voyous habillés de chagrin. Débat pour boiteuse à faire boiter l'ennui, et des parfums de gueuse à remplir tout Paris, des pendules à marquer le temps d'un beau silence, des lassos à lasser les garces de la chance, des machines à souffler le verre de l'espérance, et des vignes à chanter les messes de la démence, des oiseaux transistors qui chantent sur la neige, garantie plaqué or, plaqué par le solfège. Si ça ne va pas, tu peux toujours aller la voir. Tu demanderas la poésie, mourira. Même si elle n'est pas là, d'ailleurs elle n'est pas là, mais dans la tête d'un fou qui se prend pour un hibou. J'ai du cirage blond quand les blés vont blêmir, de la glace à façon pour glacer les soupirs, des lèvres pour baiser les aubes dévêtues quand le givre est passé avec ses doigts pointus. J'ai tant d'azur dans l'âme qu'on n'y voit que du bleu. Quand le rouge m'enflamme, c'est moi qui suis le feu. J'ai la blancheur du cygne à blanchir tout Saint-Cyr, et sur un de mes cygnes on meurt pour le plaisir. Si ça ne va pas, tu peux toujours aller la voir. Tu demanderas la poésie, on t'ouvrira. Des fois qu'elle serait là, elle te recevrait même pas. Elle n'est là pour personne, elle n'aime pas qu'on la sonne. C'est pas une domestique, elle sait bouffer des bris. Elle crie la poésie.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Pierre Judet de Lacombe raconte la vie d'Homère, le génie errant.
Homère, ou plutôt le jeune Mélésigénès, fait son apprentissage du langage et de la poésie auprès de ce Phémios de Smyrne. Quant à Créthéis, elle gagne sa vie en cardant la laine, préparant ainsi les fils qui serviront au tissage. Encore un métier en rapport direct avec la poésie, qui est souvent comparé à l'art des tisserandes, avec l'assemblage complexe de la trame et de la chaîne. Phémios, le professeur, épouse Créthéis et adopte l'enfant. Homère a enfin une famille. C'est une famille poétique. Phémios rappelle l'épopée héroïque, celle d'Ulysse, et Créthéis évoque la poésie burlesque de l'injure et de la moquerie. Tous les genres poétiques sont réunis dans cette famille. Mais cette famille n'a rien de naturel. Et ce n'est même pas une famille recomposée, puisque à l'origine, il n'y avait pas de famille. La mère est une bannie, une exilée, une fille-mère, peut-être victime d'une violence. Le père est inconnu, sauf si on croit que c'est le fleuve Mélèse ou le dieu Apollon. Homère va apprendre son métier à l'école d'un père adoptif dans une ville cosmopolite, Smyrne, à la fois grecque et non grecque. Et en plus, au départ, Homère ne s'appelait pas Homère. Son nom, celui que tout le monde a retenu, ne lui viendra qu'après. Homère est né des circonstances de son histoire. Il passe d'un lieu, d'un état à un autre. Il n'a pas d'origine, pas de racine. Le nom Homère, Homéros, vient d'une circonstance étrange. Homéros est un mot grec courant qui signifie « otage »,« garant ». C'est le sens du mot encore aujourd'hui. Or, le premier exploit d'Homère a été de se donner un rôle d'otage de manière efficace. Un jour, la ville de Smyrne est assiégée par des Grecs qui voulaient récupérer la ville dont ils avaient été chassés auparavant. Des Lydiens, un peuple d'Asie, régnaient sur Smyrne. Ces Lydiens sont menacés et se préparent à quitter la ville. Et le jeune Homère, qui s'appelait alors encore Mélésigénès, propose de se porter garant pour les Lydiens et de se livrer en otage aux Grecs qui allaient prendre Smyrne. Comme ça, les Lydiens seraient épargnés. Les Grecs acceptent. L'affaire est conclue. Le jeune homme se voit alors attribuer le nom d'Homère, d'otage, qui lui restera. Homère, qui n'était pas Lydien mais Grec, se met ainsi au service d'un peuple qui n'était pas le sien. Encore une fois, il bouge, il est entre. Il est un médiateur. Ici, on l'analyse, le nom Homéros dit clairement cette fonction de médiation, de mise en relation. La première partie du nom, Hom, signifie l'union, le rassemblement, comme dans homogène. Quant à la seconde partie, Eros, elle reprend la racine du verbe ajuster en grec, hararisko. On retrouve dans harmonie, articulation, ou pour les gens d'un certain âge, arthrose, arthrite, quand les articulations font mal. Homère est celui qui rassemble, qui articule, met ensemble, comme un otage, relie deux parties adverses. Homère, c'est aussi le mot qui désigne le travail poétique, comme assemblage, composition harmonieuse. La poésie est mise en relation, articulation des mots, des vers ou des récits. Homère est le poète qui compose, qui assemble. Il peut partir de ce qui existe déjà, les mots de la langue, les expressions, les histoires traditionnelles. Et il les rassemble de manière harmonieuse. Son travail, c'est le montage, l'assemblage. Homère est par excellence le médiateur. Entre les peuples, entre les éléments de la poésie, entre les traditions. Pour cette raison, il est universel, d'un point de vue grec. C'est pour cela qu'il n'a pas d'origine définie, d'identité. Il est toujours entre. Homère devient adulte. Il a été un très bon élève de son père adoptif, le professeur de grammaire Phémios. Il crée sa propre école. Les nombreux étrangers qui fréquentent la ville de Smyrne aiment venir s'instruire chez lui. L'un d'entre eux, un commerçant, lui propose d'aller voir le vaste monde. Ce commerçant l'emmène loin à l'ouest, jusqu'en Espagne, du côté de l'océan, du côté d'Atlas et la déesse Calypso, puis en Toscane, là où, selon une tradition, habitait il y a très longtemps la déesse Circé. Puis le commerçant et Homère arrivent à Ithaque, l'île d'Ulysse. Homère fait des enquêtes. Il recueille tout ce qu'on peut savoir sur Ulysse, ses navigations, son retour, sa famille. Mais il commence à avoir des problèmes d'yeux. Petit à petit, il devient aveugle. Il ne verra plus rien du monde, mais il aura eu le temps de le scruter et s'en souviendra dans ses poèmes.
Gérard Massé, écrivain.
Bien après Homère, nous avons épousé à peu près l'idée du poète voyant. Et pour être voyant, il faut voir dans les ténèbres. Alors, voir en plein jour, ça ne fait pas de vous un voyant. Bon. Donc il faut avoir fréquenté les ténèbres, avoir vu dans les ténèbres, en être revenu. Et les ténèbres, c'est aussi le monde funèbre. Fermer les yeux, c'est aussi avoir accès à la vie intérieure.
Selon une autre légende, ce n'est pas à Ithaque, chez Ulysse, qu'Homère perd la vision, mais en Asie, à Troie, devant le tombeau d'Achille. Dans ses voyages, Homère arrive dans la plaine de Troie, qui sera le théâtre de son Iliade. Il va voir le tombeau d'Achille, que l'on visitait souvent. Il demande à Achille de lui apparaître avec les armes fabuleuses que le dieu Héphaïstos lui a forgées pour venger Patrocle et tuer Hector.
On raconte ainsi l'origine de la cécité d'Homère. Arrivé à la tombe d'Achille, il pria pour contempler le héros tel qu'il était allé au combat, équipé de ses secondes armes. À la vue d'Achille, Homère fut aveuglé par l'éclat des armes. Pris en pitié par Thétis et par les muses, il reçut d'elle l'honneur de l'art poétique.
L'éblouissement d'Homère devant Achille en armes et en gloire serait donc à l'origine de sa poésie. Pour faire voir par les mots la splendeur d'Achille, Homère a dû être privé de ses yeux. Homère peut commencer sa carrière de poète, mais ce sera une vie d'errance, sans lieu fixe. Ce sera une vie paradoxale. La poésie d'Homère va connaître des succès de plus en plus grands. Mais Homère, comme être humain de chair et d'os, sera presque toujours maltraité, souvent sans le sou, nécessiteux et même moqué. Ainsi, dans la ville de Phocé, en Asie mineure, il chante ses poèmes et a du succès. Mais quelqu'un lui vole ses textes, s'enfuit dans l'île de Chios et les chante comme si c'était les siens. Homère se fâche, prend un bateau pour Chios, mais les marins se moquent de lui et l'abandonnent à mi-course. Homère réplique avec quelques vers menaçants.
Marins franchisseurs de mer, pareils à la folie glaçante, les mouettes vous attaquent et font de votre vie une lutte pour le pire. Ayez la crainte du Zeus des étrangers qui gouverne là-haut. Elle est terrible quand on transgresse la vigilance du Zeus des étrangers.
Tout de suite, un vent contraire oblige les marins à rebrousser chemin et à récupérer Homère. Arrivé à Chios, Homère met en fuite celui qui lui a volé ses poèmes. Il s'installe dans l'île, il fonde une école et compose, dit-on, ses grandes œuvres, l'Iliade, et l'Odyssée. Sa gloire devient immense partout en Grèce. Il décide alors de suivre les chemins de cette gloire. Il se remet en route. Il arrive sur l'île de Samos. Il tombe au milieu d'une fête qui célèbre l'intégration de jeunes garçons et de jeunes filles. Aveugle, il ne voit pas une femme qui est en train de faire un sacrifice pour une divinité vénérée comme nourricière des jeunes gens. Il la heurte. La femme s'emporte contre lui. En bon fils de sa mère Crétéis, la médisante, Homère lui envoie quelques vers mal intentionnés. Il y invoque la déesse de l'amour, Aphrodite, et lui demande que cette femme ne trouve jamais son plaisir avec des hommes jeunes.
Écoute ma prière, ô toi qui élèves les jeunes gens, Aphrodite. Cette femme, ici, fait qu'elle ne donne pas son amour et son lit aux jeunes gens. Fait qu'elle ne trouve jouissance qu'auprès de vieux gris de tempes. Leur saison s'est émoussée, mais leur cœur aspire.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Vorrei volare, dimenticare, ricominciare in seno al vento. Ritornare per un momento nel più profondo regno animale.
De la Combe évoque les derniers moments d'Homère avant qu'il ne devienne un poète immortel.
Homère passe un hiver à Samos. Cette île était connue pour ses poteries. Des potiers commandent à Homère un poème qui célèbre leur métier. Homère accepte, mais il compose un texte qui est surtout une menace. Il a peur de ne pas être payé. Le poème dit que s'il est mal payé, ce sera la catastrophe pour les potiers. Des puissances divines vont casser leur four.
Si vous me donnez le salaire de ma poésie, ô potier, je dirai « Viens ici, Athéna, étends ta main au-dessus du four. Que soient noircis comme il faut les coupes et tous les plats en corbeille, dans un bel embrasement, afin que monte l'honneur du bénéfice, dans une vente nombreuse sur l'agora, nombreuse dans les rues, pour un profit nombreux à mon avantage et au leur. Mais si l'impudence vous attire, si vous montez des mensonges, je convoquerai les génies destructeurs de fours, le dieu concasseur ainsi que fracasseur, extincteur et briseur et le maître cruel du non-cuit qui à votre art apporte tant de maux. Viens toi aussi, fille du soleil, Circé des mille drogues, jette tes drogues sauvages, maltraite leurs travaux. Viens aussi, Chiron, conduis ta foule de centaures, ceux qui ont échappé au bras d'Héraclès et ceux qu'il tua. Qu'il frappe méchamment ses travaux, que s'effondre le four, et quiconque se penchera pour regarder que son visage soit brûlé. Et tous vous apprendrez à agir selon l'ordre des choses.
On ne sait pas si Homère a été payé. Après Samos, Homère part pour d'autres aventures. Il sera souvent perdant. Un jour, sur la grande île d'Eubée, ont lieu les funérailles d'un roi, tombé lors d'une guerre qui a fortement divisé la Grèce à la fin du 8e siècle avant notre ère. À cette occasion, le fils du mort organise un grand concours poétique doté de prix très prestigieux. Homère et Hésiode participent au concours. Hésiode, un peu plus jeune qu'Homère, composait aussi des épopées, mais ses poèmes ne traitaient pas de la guerre, de grands héros comme Achille et Ulysse. Il parlait de l'histoire des dieux et des hommes, depuis l'origine du monde jusqu'au temps présent, jusqu'à la vie actuelle des paysans et des cités. Nous l'avons souvent rencontré lors de nos voyages chez les dieux. Par chance, les écrivains ont raconté comment les deux immenses poètes se sont combattus. Ce combat est sans doute une invention, mais peu importe. On découvre ce qui était attendu des poètes. La lutte entre les deux poètes commence par des devinettes. Homère doit répondre aux questions difficiles d'Hésiode. Hésiode lui demande d'abord ce qu'il y a de mieux au monde. Homère, qui a chanté tant de morts et de souffrances, lui répond que ça n'existe pas, que le mieux, c'est de ne pas exister.
Hésiode.
Homère, fils de Mélès, qui a la science des pensées venues des dieux, en tout premier, dis-moi, quel est le bien suprême pour les mortels ? Homère.
Pour commencer, ne pas naître est le mieux pour les hommes sur la terre. Une fois né, passer au plus vite les portes de l'Hadès.
Pour piéger Homère, Hésiode lui demande ensuite d'invoquer la muse pour qu'elle lui fasse chanter quelque chose qui n'existe pas. Hésiode pense que c'est impossible et donc qu'Homère n'y arrivera pas, car la muse est censée ne dire que ce qui existe. Mais Homère s'en sort.
Jamais autour de la tombe de Zeus, les chevaux au pied de vacarme ne fracasseront des chars dans leur lutte pour la victoire.
La tombe de Zeus, évidemment, n'existe pas, puisque Zeus est immortel. La muse ne peut donc pas la chanter, mais elle peut dire ce qui ne pourra jamais avoir lieu, puisque cette tombe n'existe pas. Une course de chars autour de cette tombe, comme on le fait avec les tombes des héros morts. À chaque passe d'armes, Homère est vainqueur. Il est plus habile qu'Hésiode. Il connaît mieux les ressources du langage et il sait comment on peut lui faire dire ou ne pas dire ce qu'on veut. Pour la dernière épreuve, on demande aux deux poètes de réciter leur morceau favori. Hésiode, le poète paysan, déclame un texte sur les saisons et les semailles.
Quand les Pléiades nées d'Atlas se lèvent avant le soleil, commence la moisson et commence les labours quand elles se couchent. Pendant 40 jours et 40 nuits, elles se cachent. Puis quand l'année a fait sa boucle, à nouveau, elle se montre dès que le fer est aiguisé. Telle est la loi de la terre.
Homère, lui, récite un texte fracassant, plein de la violence de la guerre.
La bataille tueuse de mortels frissonna sous les longues lances tendues pour couper les corps. Les yeux étaient aveuglés par les rayons de bronze que jetaient casque flamboyant, cuirasse juste polie, bouclier lumineux serré au même endroit. Son cœur serait bien endurci, celui qui aurait joie et non accablement à voir ce labeur.
Le public est enthousiasmé par ce texte guerrier. Il veut donner la victoire à Homère. Mais le roi qui préside le concours n'est pas de cet avis. Il en a assez de la guerre, de ces guerriers morts qu'on célèbre par des funérailles. Il préfère la poésie qui chante la vie paisible, travailleuse et prospère. Il accorde donc la victoire à Hésiode. Vaincu, Homère continue sa vie d'errance chaotique, même si sa gloire est immense. Il y a là un vrai paradoxe. Hésiode a eu le prix parce qu'il chante le présent, le travail des paysans. Il chante la politique quand elle est bien menée, avec les décisions justes prises par les rois, ou quand elle est injuste et mène à la catastrophe. Hésiode parle aux gens de ce qu'ils vivent au jour le jour. Homère, lui, chante le passé, les exploits antiques de grands héros morts depuis longtemps. C'est fascinant, enthousiasmant. Mais ce n'est pas la vie réelle de tous les jours, dont Homère ne parle quasiment jamais. Le monde présent n'est pas son monde. Dans la vie réelle, Homère va donc être un éternel exilé, un mutilé qui a perdu ses yeux, qui ignore qui est son père. Il sera indéfiniment un grec errant. Mais étant de nulle part, il sera universel. Sa poésie se répand partout. Elle est reprise par toutes les villes de la Grèce. Homère le poète triomphe. Dans sa vie matérielle, Homère est démuni. C'est souvent un loser, ballotté par les circonstances. Mais il règne en maître sur le langage. Le sien sait si bien faire apparaître les merveilles du passé. Homère a son équivalent chez les dieux. C'est Héphaïstos, le forgeron, le Vulcain des Romains, l'artiste génial. Ce dieu, comme Homère, crée des merveilles, mais il ne paye pas de mine. Il est estropié, boiteux. Il a été chassé brutalement de l'Olympe plusieurs fois. Il est cocu et on rit de lui. Mais sans lui, sans son art, l'Olympe ne brillerait pas, ne serait pas splendide. La mort d'Homère évoque l'impuissance du poète aveugle à sortir du langage pour comprendre la réalité la plus simple, la plus grossière. Pour une fois, les auteurs anciens qui ont raconté la vie d'Homère sont tous d'accord, ou à peu près, sur les circonstances de cette mort. Homère est né plein de fois, dans beaucoup de lieux, mais il ne meurt qu'une seule fois, dans une petite île des Cyclades, qui s'appelle Ios. Homère était parti à la recherche de l'identité de son père. Comme tout bon grec, il va consulter le dieu Apollon dans son temple de Delphes. Comme souvent, le dieu répond à côté. En fait, Apollon était l'un des pères possibles. Il renseigne Homère non pas sur son père, mais sur le lieu de naissance de sa mère. Et il le prévient que ce lieu est dangereux pour lui, à cause d'enfants.
Il est une île, Ios, la patrie de ta mère. Mort, elle t'accueillera. Mais prends garde à l'énigme des enfants.
Au terme de ses voyages, en Grèce, en Asie, Homère finit par se retrouver sur cette île, Ios. Volontairement ou pas, ça dépend des récits. On dit parfois qu'il voulait aller à Athènes, mais qu'il est tombé malade. Fatigué, il est débarqué à Ios et il s'allonge sur la plage. Les habitants de l'île viennent le réconforter. En remerciement, il les charme avec ses poèmes. Mais voilà que des enfants débarquent sur cette plage. Ils reviennent de la pêche. Homère s'adresse à eux. Il fait le malin. Il parle comme un poète, dans un style pompeux. Il interpelle ses gamins en composant un vers épique, grandiloquent.
Homme chasseur d'Arcadie, avons-nous quelque chose ?
C'est complètement déplacé. Il parle à des enfants et non à des hommes adultes. Et on n'est pas en Arcadie, zone boisée de la Grèce, pleine de gibier et loin de la mer. On est sur une plage, au bord de l'eau. Homère a voulu faire le savant. L'Arcadie est le pays d'origine d'Hermès, dieu de la chance, de la débrouillardise, de la trouvaille. Homère voulait seulement savoir si le dieu Hermès a été favorable, si les gamins ont eu du succès et pris du poisson. Les gamins se vengent. Ils se moquent de lui en lui répondant par une énigme.
Tout ce que nous avons pris, nous l'avons laissé. Tout ce que nous n'avons pas pris, nous l'emportons.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment peut-on emporter ce qu'on n'a pas pris et laisser ce qu'on a pris ? Homère ne comprend pas. Il ne voit pas du tout de quoi parlent ses enfants. Il est impuissant. Lui, le vieux maître du langage, il est coincé. Il s'est fait avoir par des gosses. Les enfants lui expliquent. Ils ne parlent pas de poissons, mais des poux qu'ils ont ou qu'ils avaient sur la tête. Ils se sont épouillés. Les poux qu'ils ont trouvés, ils les ont tués et ils les ont jetés.
Tout ce que nous avons pris, nous l'avons laissé.
Les poux qu'ils n'ont pas trouvés, ils les gardent sur eux.
Tout ce que nous n'avons pas pris, nous l'emportons.
En fait, c'était simple. Homère est désespéré de ne pas avoir compris. On dit parfois qu'il meurt de désespoir. Parfois, on dit qu'il veut partir, se lève et glisse sur de la boue et meurt 3 jours après. Sa tombe est érigée tout près du lieu de sa mort, avec cette inscription.
Ici, la terre recouvre la tête sacrée. Le divin Homère, ordonnateur de guerriers héroïques.
L'énigme des enfants était une vraie rencontre avec la mort. Un poux, en grec, ça se dit phteir, un mot qui veut dire porteur de mort, de destruction. Le mot phteir est de la même racine que notre phtisie. Les Grecs pensaient en effet que les poux naissent du pourrissement des chairs mortes, selon l'idée qui a été crue pendant des siècles de la génération spontanée. Homère n'a pas compris que les enfants, en s'épouillant, en tuant des bêtes presque invisibles, tuaient la mort et s'en débarrassaient ou la gardaient avec eux pour les poux qu'ils n'avaient pas vus. Homère n'avait pas compris qu'il s'agissait de la mort, de l'invisible. Il croyait naïvement, comme tout le monde, qu'il s'agissait de bons et gros poissons. Lui, l'aveugle, était encore obsédé par le visible. Il cherchait dans ses poèmes à dire du spectaculaire, du grandiose, de l'héroïque. Il cherchait à faire comme si on pouvait le faire voir. Mais il n'a pas perçu que le langage pouvait jouer avec la mort, la disparition. Homère en est mort. Il rejoint ses grands héros disparus et aussi ses poux qui ont amusé les enfants. De lui, il ne reste que les paroles extraordinaires qu'il a prononcées tout au long de sa vie. Après cette mort sur l'île d'Ios, Homère le poète a vécu une très longue immortalité. Elle dure encore aujourd'hui.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechêne. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Jean-Louis Deloncle et le mixage par Julien Douminc. La semaine prochaine, nous reviendrons chez les dieux et nous suivrons les aventures de Déméter. Déméter qui pleure, Déméter qui rit.